Je vais essayer de vous partager l'expérience de coopération. Donc, ce n'est pas un travail de recherche scientifique en tant que tel, mais c'est aussi un travail qui est issu en fait, de tout ce qui est activité scientifique menée en partenariat avec l'IRB. Alors, comme vous le savez, depuis un moment, c'est que les recherches sont de plus en plus encouragées à être inscrites dans le réseau de coopération, de collaboration ou de partenariat multidimensionnel. Et de ce fait, pour obtenir un financement de recherche aujourd'hui, il faut avoir un projet de recherche en partenariat. Et le problème, c'est que c'est un projet de recherche mené en partenariat sont souvent soumis à des critiques acerbes parce que ce sont des programmes qui reproduisent des vieilles habitudes qui ont été très souvent contestées. Aussi, ces projets aussi impliquent en fait des logiques institutionnelles parfois opposées ou contradictoires. C'est aussi des projets qui prennent en compte très faiblement le contexte socio-culturel et économique des pays. En plus, c'est que ces projets mettent en concurrence aussi des institutions aussi bien au sud comme au nord. Et aussi, ces projets impliquent des enjeux politiques et économiques et parfois durs. Et du coup, ça donne lieu à des conflits d'intérêts ministériels entre soit au sud ou aussi des conflits d'intérêts de positionnement. Donc, ma communication s'inscrit donc dans l'axe coopérer, étudier les coopérations entre acteurs sociaux et institutionnels. Il a donc pour objectif, comme j'ai annoncé au début, de partager notre expérience de partenariat et de coopération nord-sud et sud-sud dans la chaîne scientifique ainsi que les questions éthiques qui en découlent. Et donc, cette expérience est entièrement basée sur notre coopération avec l'IRT. Alors, donc, l'origine du partenariat avec l'IRD, c'est tellement long, je ne vais pas dire dessus. Juste savoir que la chaîne UNESCO de Vieux, c'est un centre de recherche qui est né en 2010 après la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire pendant que l'Université de Kwaki était localisée à Abidjan. Et après ça, à la suite de ça, il y a lui-même Mivegep qui décide de réinvestir la ville de Kwaki en 2012. Et en 2014, cette UMV a envoyé 4 chercheurs à Kwaki. Deux ans après, va coïncider en fait avec la crise de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Et les chercheurs de l'IRD qui étaient affectés vont décider de créer un réseau de chercheurs. Et en même temps, à la suite de ce réseau, ils vont dire bon, on crée ensemble un programme de recherche commun qui va nous permettre d'analyser les politiques de réponse. Donc, il y a eu 5 pays qui ont été impliqués dans ce programme. Et parmi les 5 pays, il y avait la Côte d'Ivoire avec plusieurs programmes de recherche. Donc, je cite le programme de la Côte d'Ivoire qui est EPOSI. Et à la suite de ce programme EPOSI, quand on a présenté les résultats au ministère de la Santé. Et ils nous ont demandé de continuer à mener des recherches sur le programme, sur les funérailles. Donc, à la suite de ça, on va créer une GIE qui va nous permettre de mettre en place un programme qu'on appelle l'outil funéraire et épidémie en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai réalisé ma thèse. Dans tout ça, ce qu'il faut, retenir, c'est que les partenariats naissent très souvent des relations interpersonnelles. C'est-à-dire que même s'il y a un accord officiel qui est signé, ce sont des échanges interpersonnels qui donnent sens et qui permettent au partenariat d'exister. Donc, les points sur lesquels je vais vraiment m'apesantir, le premier point, c'est sur qu'est-ce qui fait que le partenariat Nord-Sud est solide. C'est d'abord le fait, par rapport à ce que j'ai observé, ce que j'ai vécu, c'est le fait que les programmes de recherche soient mobiles entre les trois unités. Par exemple, la GIA et le programme l'IFEPIC, lorsque Marc devait changer d'unité pour venir au LPED, donc il est venu en même temps avec son programme. Donc ça fait que ça permet en fait de toujours de continuer avec lui et de continuer avec le programme au LPED. Ensuite, c'est qu'il y a des bourses qui sont souvent attribuées, qui permettent en fait de consolider cela. Ici aussi, c'est qu'au Nord, il y a des instruments qui permettent de créer des réseaux de recherche et aussi de pouvoir toujours les entretenir. Tel que, par exemple, il y a la GIA, il y a des régions, groupement de recherche internationale, il y a LMI qui est laboratoire MIS international. Donc ce sont des outils qui permettent toujours de créer des réseaux. Mais en même temps, il y a des fragilités dans cette population. Et le premier point que j'ai identifié en tant qu'étudiant, c'est que j'ai remarqué qu'il y a souvent l'attribution des bourses ignore souvent les critères de population et de favoris. Par exemple, c'est supposé que quand vous êtes étudiant sur une GIA, vous avez plus de chances en fait d'avoir une bourse. Mais là, moi j'étais sur un programme de GIA, j'ai fait la demande trois fois et trois fois ça n'a pas marché. Il a fallu que Max change d'unité de recherche. Et là, je dis merci au LPED. Et Max change d'unité de recherche pour venir au LPED. Et la même année, j'obtiens une bourse de 12 mois. Et toujours en termes de fragilité, c'est que même quand j'ai obtenu ma bourse de 12 mois, j'arrive en France en période de Covid. Je suis, pour finir chez Mac, il y a un programme de recherche. On me dit, bon, comme tu as fait des recherches au sud et que tu as une expérience en termes de gestion de l'épidémie, alors tu viens travailler avec nous à l'hôpital européen. Donc pendant 6 mois, j'ai travaillé à l'hôpital européen pour aider les médecins à gérer les relations entre les familles et les personnes vivantes, mais aussi comment il fallait gérer les funérailles. Après ça, je demande qu'on m'accorde 6 mois de plus pour pouvoir finaliser ma thèse. Et là encore, je n'ai jamais eu de pause. Et pourtant, ce travail a été présenté à l'IRD comme un modèle de la coopération nord-sud. Et qu'au moins, il y a quelqu'un du sud qui a appris quelque chose et qui est venu appliquer au nord. Et pourtant, dans les faits, il n'y a pas eu de reconnaissance comme ici. En plus, c'est que quand les programmes vont au sud, c'est la façon de diffuser les fonds sont déterminés par le sud, donc les poches de dépenses sont déterminées par le sud. Donc même si vous avez un besoin de recherche en priorité, on vous met dans un cadre qui fait que vous ne pouvez pas aller au-delà. Et aussi, c'est que du coup, comme c'était déterminé par le Sud, et le programme, l'agenda de Brigitte aussi est déterminé. Par exemple, moi, ma masse a duré 2 ans parce qu'on a demandé un financement qui a duré 2 ans avant d'arriver. Ensuite, c'est que, comme je l'ai dit, donc, le financement prend fermement en compte les questions, le contexte de l'étudiant économique, surtout des étudiants. Et du nous, un étudiant en terre, c'est pas moins de 30 ans. Donc, un étudiant en terre, c'est pas moins de 30 ans, ça veut dire qu'il a une charge familiale. Et vous ne pouvez pas venir en France et puis vous venez aller dire que vous avez une bourse. De toute façon, on ne sait pas faire la différence entre une bourse et salaire. Donc, il va falloir gérer à la fois la famille et aussi s'occuper de soi-même. Et aussi, il y a ce rapport asymétrique en termes de mobilité. C'est que quand on vient ici, vous ne pouvez pas imaginer les tracasseries administratives qui sont derrière toutes ces questions. Et aussi, il y a une variation dans la façon de bourser. C'est que pour la même bourse, quand vous êtes au sud, on vous donne que le tiers, et quand vous êtes au nord, vous avez le triple. En plus, ça, c'est qu'on pose des limites de durée. Mais sinon, on n'en a que le double au sud. C'est pas sûr qu'on vienne ici pour faire plus de 3 ans. Parce que si on en a le double au pays, on va mieux vivre. Ici. Donc, mais ce n'est pas que au nord qui a des problèmes, au sud aussi, il y a aussi des problèmes. Donc, en termes de fragilité pour les questions du sud, c'est que la coopération, parce qu'on nous apprend aussi à coopérer entre nous et les pays du sud, mais cette coopération aussi, et souvent mal vu parce qu'il y a des conflits d'intérêts, des concurrences entre les laboratoires de recherche, même si ici aussi ça existe. Aussi, il y a un faible soutien institutionnel en termes de promotion de la coopération tout de suite. Par exemple, nous, quand le ministère a passé la commande de recherche, ils nous ont jamais financé. On leur a écrit pour dire nous ça c'est même des lettres pour qu'on puisse avoir du financement au nord, ils ne l'ont jamais fait. Et aussi, chez nous aussi, quand il y a des programmes de recherche en partenariat, parce que l'ancien qui travaille dessus, il suppose qu'il fait des heures sup. Donc il veut avoir des rétributions. Or, dans les thèmes de partenariat, on leur demande souvent. C'est que tout ce qu'ils doivent avoir, ils peuvent demander des frais de mission, mais ils n'ont pas de rétribution. Et la dernière fois, j'ai dit en train de discuter avec un ancien qui me dit on n'entend pas un parent avec des articles. Or, ici, quand on envoie le programme, on lui demande à la fin, il faut qu'il produise un article. Et aussi, il y a des coins qui se forment là-bas aussi, comme ici. Dans le laboratoire, il y a aussi des écoles qui se forment. Il y a l'ensemble de choses, outils de promotion, de choses d'entretien de partenariat. Une fois qu'il y a un programme qui quitte au nord, qui arrive au sud et que c'est fini, le sud ne fait presque plus rien en fait pour continuer à entretenir les relations parce qu'il n'y a pas d'autres outils. Et tout cela pose des questions éthiques, à mon sens. Et la première question éthique, c'est que la question que je me pose, finalement, on est dans une relation d'aide à la recherche ou du don à la recherche, parce que j'ai l'impression que nous, on apporte un peu moins en termes de financement et autres dans la recherche. Et aussi, ça pose aussi le droit de propriété des données, comme le protocole. Nangoya, par exemple. Et depuis un moment, le Nord demande qu'on conserve les données en ligne qu'on appelle un entrepôt de données avec indexation. Donc, cette loi-là, moi, je me pose la question, ça va être arrivé sur la base de quel pays? De la France ou de la France, par exemple, si nous sommes Nadia. Et aussi, le problème, c'est que si on met trop de conditions d'utilisation des fonds, il va y avoir des demandes de fonds pour aider, soit c'est pour aider l'étudiant pour qu'il puisse suivre. Mais en même temps, s'il n'y a pas de conditions aussi, les fonds risquent aussi d'être détournés aussi, soit par le coordinateur pour des besoins personnels. Donc, dans les deux cas, il y a toujours un risque. Donc, en conclusion, c'est que le partenariat nord-sud ou sud-sud sont souvent des initiatives du nord. C'est-à-dire que c'est moi, j'ai pendant les six années, j'ai vu gravement des initiatives de coopération qui sont venues du sud. En fait, le partenariat scientifique, comme j'ai dit au début, c'est une émission de il y a une faible dotation des centres de recherche au sud qui permet de l'engager pour tout ça. Et donc, si je propose, par exemple, donc, en termes de conseil, il faut prévoir un partenariat effectué des gens du contexte socio-économique et surtout des étudiants. Il faut discuter les questions éthiques qui émergent autour de ces partenariats. Il faut surtout développer une analyse symétrique du partenariat pour améliorer les relations de coopération ou de collaboration car les problèmes et les lacunes ne sont pas qu'au sud et au nord. Nous deux, nous avons tous des lacunes. Je vous remercie.
La parole à Sandrine Andangle pour une communication intitulée, alors là il y a un peu de résistance, coopérer dans un esprit de résistance, état forestier et mise en œuvre de la politique européenne de lutte contre l'exploitation forestière illégale au Cameroun.
Merci Marie-Dominique pour la parole. Bonsoir à tous. J'ai remarqué que je suis la dernière des intervenants. J'espère que cela a été motivé par le fait que hier est toujours pour la fin. Je blague un peu. Okay. Fimeux nous a présenté tout à l'heure un cas de coopération nord-sud, mais plutôt sur le plan scientifique, mais avec des acteurs non étatiques. Moi, je vais plutôt présenter aussi un cas de coopération nord-sud, mais plutôt avec des acteurs gouvernementaux. Et comme on l'a vu avec le cas de Firmin, ce genre de type de coopération comprend beaucoup de complexité. Et celle que je vais vous présenter également a beaucoup de complexité du fait qu'elle est basée sur une relation de pouvoir. Et c'est cette relation qui anime toutes les activités et fait en sorte que les acteurs en présence affichent des comportements ou des discours qui parfois peuvent être interprétés comme de la domination ou de la résistance, comme dans le cas que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, je passe l'exposé. Donc, l'objet de ma recherche porte sur la coopération entre l'Union européenne et le Cameroun pour la lutte contre l'illégalité forestière. Donc, dans cette coopération-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une relation de pouvoir qui la sous-tend, et la naissance de cette coopération a apporté des mouvements dans cette relation-là. Et c'est ça, ces mouvements-là, que je vais analyser ici. On entend par illégalité forestière tout simplement la violation des réglementations forestières relatives aux activités liées à la forêt, par exemple la gestion ou l'exploitation des forêts, ou même tout simplement le commerce des produits forestiers. Donc, pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à la naissance de cette coopération. Remontons un peu plus haut dans l'histoire pour dire que l'illégalité forestière a été depuis les années 70 une préoccupation très importante au niveau international et de manière d'abord séparée des États ou alors des communautés d'États telles que l'Union européenne, essayer de trouver chacun à son niveau des solutions. C'est ainsi que l'Union européenne, à la fin des années 90, après avoir subi des pressions de ses consommateurs qui se plaignaient du fait que les produits de bois vendus sur le terrain, sur le territoire européen n'obéissaient pas aux lois forestières des pays producteurs. Et du coup, les populations riveraines de ces forêts-là ne recevaient pas ce qu'elles devaient recevoir, ne bénéficiaient pas du tout de l'exploitation de leurs forêts. Et du coup, ils boudaient le bois. Et donc, pour répondre à cette préoccupation, l'Union européenne, la Commission européenne a donc mis en place en 2003 une réponse qu'elle a appelée le plan d'action FLET. FLET en français, c'est application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux. De son côté, le Cameroun, il faut le dire, depuis que c'est devenu un État dépendant, s'est très vite préoccupé d'une gestion légale des forêts, dont les premières lois que le nouvel État camerounais prend, il y en a beaucoup qui sont du domaine forestier. Sauf qu'il a remarqué que malgré que ça devenait un domaine prolixe en normes juridiques, ces normes juridiques n'étaient pas du tout appliquées. Alors avec d'autres pays africains, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, se met dans un mouvement pour trouver aussi des solutions pour arriver à ce que les lois forestières soient respectées. Et en 2003, avec d'autres pays, ils prennent solennellement l'engagement de trouver des moyens en interne pour faire appliquer les lois forestières et donc garantir une gestion durable des forêts. Sauf qu'en 2010, les deux mouvements, celui de l'Europe, celui du Cameroun, se retrouvent et le Cameroun se retrouve à signer avec l'Union européenne un accord de partenariat volontaire basé sur le plan d'action FLEC. Ceci pour dire qu'on s'engage à travers l'application de cet accord à renforcer l'application des réglementations forestières sur le territoire camerounais. Pour continuer ma présentation, je vais faire quelques clarifications conceptuelles pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle lorsque je parlerai certaines. Par exemple, quand je dirai APV FLEC, vous comprendrez qu'en fait, je fais allusion ici au partenariat de l'Union européenne et du Cameroun sur la lutte contre l'illégalité forestière. Et vous saurez que le sigle APV FLEC vient de deux instruments politiques, dont le premier est le plan d'action FLEC, qui est une vision des mesures que l'Union européenne, à travers la Commission, a mis sur place pour répondre à la préoccupation de l'illégalité forestière. Et l'APV ou accord de partenariat volontaire est donc cet instrument-là qui permet à la Commission européenne de pouvoir faire appliquer sa vision de la lutte contre cette illégalité forestière dans un pays qui accepte, selon l'appellation de l'accord, volontairement que ces mesures-là soient appliquées sur son territoire. Et du coup, cela emporte des implications sur cet État partenaire à l'Union européenne. C'est que d'abord, il doit définir ce qu'il entend par l'égalité forestière. Et deuxièmement, il doit mettre sur pied un système de vérification de la légalité et un autre système qui va s'occuper de la traçabilité du bois, c'est-à-dire savoir quand je suis là à Marseille, j'ai un pupitre avec fait du bois, si je veux savoir d'où ce bois est parti, que ce système de traçabilité-là me le permette. Donc, voilà. Et la définition de la légalité, qu'est-ce que ça signifie? En fait, l'Union européenne et le gouvernement du Cameroun, particulièrement l'administration forestière, se sont donc assis avec d'autres acteurs qu'ils ont invités sur le terrain, parce que ça a été un processus très participatif, ont consigné dans un seul document toutes les réglementations en vigueur au Cameroun, ainsi que les politiques aussi en vigueur en matière de forêt, qui interviennent dans la moindre des activités forestières. Cela dit, de manière concrète, un scieur de bois, pour que ça se passe sur le pot, que ce soit facile pour lui de pouvoir le faire de manière légale, puisqu'il n'aura pas le temps d'aller regarder quelle loi s'applique. Il a ce document-là, et ce document-là a déjà ce qu'on appelle les grilles de légalité, et dans ces grilles-là, il y a toutes les lois répertoriées et les actions qu'il doit poser pour pouvoir être en accord avec, ça, avec ces lois-là. Et, dans la, et comme je le, cette définition donc emporte le fait que cette définition donc est basée sur les lois et les politiques forestières en vigueur au Cameroun, mais aussi sur on peut dire, je peux dire, les considérations de la Commission européenne. Ici, principalement, ce que j'appelle les notes d'information FLECT, qui sont en fait des documents dans lesquels les experts de la Commission européenne expliquent ce que c'est que le FLECT aux pays partenaires. Et les pays partenaires sont tenus de prendre en compte ce qui est consigné dans ces notes d'information FLECT. Dans la suite, je parlerai aussi de domination. La domination ici étant prise dans... Je prends ici dans le sens que Max Weber la donne, c'est-à-dire c'est une domination pas due comme on imagine avec la force, mais non, elle est plutôt douce, où les dominés consentent à être dominés, ils pensent que cette domination est légitime, et cette domination n'est pas basée sur rien, mais sur un ensemble de codes, un peu comme je vous parlais des prix des égalités, ou si bien de l'accord de partenariat, en fait, parce que c'est un accord qui a été ratifié. Et la résistance est en fait tout simplement un acte d'opposition. Et lorsque je parlerai d'acteurs du côté de l'Union européenne, ça s'agira par exemple de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, ou bien des experts de la Commission européenne à Bruxelles, ou alors d'autres organisations européennes de coopération bilatérale qui se trouvent au Cameroun, par exemple la coopération allemande, la GIZ, qui est très impliquée dans les questions forestières au Cameroun. Et au Cameroun, lorsque je parlerai acteur du Cameroun, il s'agira principalement du ministère en charge des forêts, ensuite du secteur privé et de la société civile. Maintenant, la question qui conduit ma recherche est celle de savoir comment est-ce que le mouvement de pouvoir que l'APV FLECT a occasionné au Cameroun affecte les relations entre les relations de pouvoir qui existaient déjà entre l'Union européenne et le Cameroun, parce que je ne l'ai pas dit plus tôt, mais je vous rappelle rapidement, le Cameroun et l'Union européenne entretiennent des relations de coopération diversifiées depuis des relations même historiques. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir donc, comment est-ce que la paix des flèches est venue affecter cette relation qui existait déjà. Et j'ai trois hypothèses. C'est que la paix des flèches, en fait, a érigé sur le Cameroun une domination dans la gouvernance forestière, il faut être précis, et que la mise en œuvre de cet accord s'opère sous un fond de domination européenne et de la résistance camerounaise qui n'est pas vraiment perceptible, mais en fait c'est ce qui se passe lorsqu'on va au fond des choses. Et que cette résistance que pose le Cameroun, en fait, s'explique par le fait que le Cameroun a l'impression de perdre le contrôle de son système de gouvernance forestière et donc essaye de reprendre comme il peut la main sur ce contrôle-là. Je me suis donc basée sur le concept de everyday resistance ou alors résistance quotidienne, qui est une notion qui a été apportée dans la science par James Cook en 1985, je veux pourtant pour moi. En fait, la résistance quotidienne, c'est, pour James Cook, c'est une forme de résistance qui est, elle est subtile, elle est déguisée, elle n'est pas... Elle peut se passer sous vos yeux, vous ne saurez pas que c'est la résistance. Parfois, même l'acteur même qui pose là ne sait pas que c'est un acte de résistance. C'est ce type de résistance qui a inspiré, sur laquelle je m'inspire. Et plus tard, cette notion a été conceptualisée par deux auteurs, Vitangen et Johansson, en 2013. Et parmi les éléments d'analyse, ils trouvent que dans la dominance quotidienne, il existe une interrelation entre la domination et la résistance. En fait, c'est des notions ces terres peut-être, elles sont un peu comme, ça c'est ma lecture, un peu comme les pattes d'une même pièce qui nourrissent, enfin, qui nourrissent une relation de pouvoir. Ce ne sont pas l'un n'est pas le résultat de l'autre. Les deux se nourrissent ensemble tout au long et se construisent tout au long de l'histoire de la relation. Et donc ce concept m'a permis de comprendre quel type de relation existe exactement entre les deux acteurs ici en présence et surtout de pouvoir décrypter les stratégies de résistance du Cameroun. Savoir que en fait quand il cette action en fait c'est une action de résistance. Et pour pouvoir le faire de manière méthodologique, j'ai fait une lecture croisée de ce que James Scott appelle discours public et discours caché. Le discours public, en fait, c'est l'ensemble de comportements et de discours que les acteurs entretiennent en public quand ils sont devant tout le monde, ce qu'ils disent en public. Et maintenant, le discours caché, c'est ce qu'ils peuvent dire lorsqu'ils se sentent dans leur en sécurité, dans leur petit coin. Et là, ils sont à l'aise, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et pour y avoir accès, j'ai procédé par des entretiens sémi-directifs et des discussions libres. Je dois dire que les entretiens sémi-directifs me laissaient toujours au niveau du discours public, mais lorsque j'entrais dans les discussions libres, c'était très intéressant. Là, j'ai aussi utilisé la revue documentaire, elle aussi me permettait juste de pouvoir avoir le discours des acteurs. Voilà, comme premier résultat, de ma recherche parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais revenir dessus. L'APD FLEC, en fait, est un instrument de domination de la gouvernance, un instrument de domination européenne sur la gouvernance des forêts de Cameroun. Et cela est soutenu par trois arguments. Déjà, la littérature sur l'APD FLEC ou la politique européenne de lutte contre l'égalité forestière, la littérature sur le FLEC plutôt, pas l'APD FLEC. Les perceptions des acteurs camerounais et ce qui se passe sur le terrain. En ce qui concerne la littérature, ici j'ai deux papiers très intéressants, celui de Montoré en 2014, il a beaucoup travaillé sur justement le FLECT, qui montre que à travers le plan d'action FLECT, l'Union européenne a réussi à reprendre la main au niveau global sur la gestion des forêts ainsi que la régulation du marché du bois. Voilà, je le présente comme ça. Il y a un paragraphe intéressant qui va vous dire les choses. Donc, les décisions se font depuis Bruxelles et elles sont implémentées dans les territoires partenaires au FLEC. Maintenant, il y a le deuxième papier intéressant, celui de Myers et ses collègues, qui présente le FLEC en fait comme un instrument hégémonique, en ce sens que, la légalité, bien que la Commission européenne ait prévu qu'elle devait être définie par les États partenaires eux-mêmes, mais en fait avec une forte influence du FLEC, je vous ai dit, des notes d'information qui sont écrites par des experts, et quand vous lisez ces notes d'informations plus bas, vous dites ça ne reflète pas la vision de la Commission européenne. Mais lorsque vous lisez le document APV du Cameroun, que le Cameroun et l'Union européenne ont signé, dans les annexes qui font partie intégrante de l'accord, on vous dira que parmi les éléments constitutifs des définitions de la légalité, il y a ces documents. Ces documents-là qui sont pris en compte. Et lorsque cela n'est pas fait comme ça, si l'État partenaire essaie d'écarter peut-être cette vision de la Commission sur la légalité pour ne tenir compte que de sa vision à elle, ou bien de sa compréhension à lui de la légalité, ces propositions sont souvent taxées de criminelles ou alors de moral et du coup mise de côté. Et maintenant, sur le plan des acteurs camerounais, il faut dire qu'il y a un gros doute sur le caractère volontaire de la signature de l'arrêté des FLEC, notamment les acteurs, que ce soit ceux du ministère chargé des forêts, que ce soit ceux du privé ou de la société civile, la majorité partage ce doute-là. Et pas tout simplement d'un simple fait, je vais avancer. Et pas tout simplement d'un simple fait que, en 2003, le Cameroun prend l'engagement solennel de rentrer chez lui et de rester chez lui parce que les choses se passent au Cameroun, et de prendre des mesures internes pour pouvoir faire appliquer ces lois. Qu'est-ce qui explique que 7 ans plus tard, il se retrouve en train de signer un accord de partenariat volontaire, disant qu'en fait, on l'a même signé parce que pour pouvoir vraiment appliquer nos propres lois. Pourquoi aller signer un accord avec l'extérieur pour venir appliquer tes propres règles, tes règles internes? D'où certaines personnes pensent qu'il n'y a rien de volontaire là-dessus, et aussi comparé au fait que l'Union européenne, c'est une mastodonte côté politique par rapport à par rapport à l'État camerounais. Et sur le terrain, il y a déjà que, comme je disais tout à l'heure, le fait que la Commission est convaincue, le Cameroun a des reflets, montre qu'il y a une certaine supériorité de domination. Il a réussi à obtenir son consentement, à se soumettre à sa vision des choses par rapport à la lutte contre l'illégalité forestière. Et donc, ça montre déjà un caractère de supériorité de domination de l'Union européenne sur le Cameroun. Et aussi, il y a plusieurs faits sur le terrain qui montrent qu'il y a des tentatives de domination, ou alors tout simplement la domination. Il y en a plusieurs, je ne pourrais pas toutes les citer ici, mais je vais juste prendre un exemple. Par exemple, pendant la période de négociation, parce que pour signer cet accord, il y a une période de négociation où les États, l'Union européenne et les États potentiellement partenaires, s'accordent sur un certain nombre de choses. Au début de cette phase, une réunion à Bruxelles, les négociateurs du Cameroun arrivent à Bruxelles et pendant la réunion, les experts de la Commission leur sortent un draft de rapport d'accord et leur disent voilà, ce qu'on vous propose, on a même déjà fait un accord, vous n'avez qu'à signer. Voilà, ça c'est un exemple. Le deuxième résultat que je veux relever ici, c'est les stratégies de résistance que le Cameroun emploie au sein de cette coopération avec l'Union européenne pour renforcer la légalité forestière au Cameroun. J'ai identifié 4 types de stratégies. Et la stratégie du faire semblant, production de retard, tracé d'inertie, la stratégie de défiance déguisée que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elle est en rouge. Faire semblant. Comment est-ce que ça s'exprime sur le terrain? Après la signature, ils ont encore prévu que, comme c'était un nouvel instrument qui entrait au Cameroun et qui demandait beaucoup de réformes, comme je l'ai montré tout à l'heure, il fallait définir la légalité, il fallait mettre en place un système de vérification de la légalité, un système de traçabilité du bois. Les deux partenaires se sont donné un délai de 3 ans pour faire des activités préparatoires à l'application de l'accord. Pendant ces activités, il fallait aussi sensibiliser tout le monde de ce que c'est que la PDGS, et que ça va changer et tout. Mais nous sommes en 2022 aujourd'hui et je vous dis, cette phase d'agenda n'a pas encore pris fin. Et chaque année, il y a l'Union européenne qui met des fonds à disposition des organisations de la société civile, du ministère des forêts, pour pouvoir continuer toujours à préparer la mise en œuvre de l'accord. Mais en fait, le Cameroun multiplie toutes les acteurs camerounais multiplient ces activités parce qu'en réalité, c'est de l'argent qui, chaque année, on soumet de nouveaux projets et tout, mais bon, ça ne permet pas d'avancer. Ça pose aussi du retard, on n'avance pas. L'inertie, on veut changer les comportements pour que les lois forestières soient appliquées. On est toujours, on n'a pas beaucoup avancé. C'est que les Camerounais, les acteurs qu'on reconnaisse les bienfaits, les quelques changements que cet instrument a apporté déjà au Cameroun, mais c'est des changements vraiment résiduels. Oui, il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés sur ce qu'ils sont déjà sur la table de débats sur les questions forestières au Cameroun. Oui, il y a la transparence, mais allez sur les chantiers forestiers, vous trouverez toujours les mêmes pratiques. Bon, ça n'a rien changé. Ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas du tout presque bougé. Maintenant, la stratégie de défiance déguisée, en fait, sur la base du concept de la résistance quotidienne, ce ne serait pas vraiment une stratégie de défense quotidienne, de résistance quotidienne, parce que la défiance, elle est ouverte. On peut l'identifier. Mais ici, je la qualifie de déguisée parce que sur la base de l'exemple ou bien de l'action, voilà le comportement que le ministère des Forêts a affiché récemment au Cameroun, c'est que en ce qui concerne le système informatique de gestion de l'information forestière, c'est ce système qui doit gérer la traçabilité du bois au Cameroun. Le processus de développement de ce système informatique dure depuis la signature de l'accord jusqu'à l'année passée où il était question contractuellement, il était question que ça se développe de manière collaborative avec des experts de l'Union européenne, des experts camerounais. Mais à un moment, il y a eu des problèmes, des frictions entre eux, que l'Union européenne, les experts de l'Union européenne se sont retirés, que du Cameroun sont restés tout seuls. Et l'Union européenne leur a dit, en fait, nous, on ne veut plus de ce que la version que vous avez mis en place là, nous, on ne la veut pas. Et il faut recommencer à zéro. Et les experts camerounais ont dit non. Ça fait trop longtemps qu'on est sur ce projet à vouloir développer un système fiable. Nous, on pense qu'il est fiable. Et un matin, le 1er avril 2021, l'Union européenne, quand même la veille ou quelques temps avant, ils ont appris, les acteurs européens tout simplement appris que vous êtes invités à une réunion à un grand hôtel du Cameroun. Le Cameroun va valider son système informatique de gestion de l'information forestière. Et ça a été fait sur fond européen. Donc, ils étaient tous scandalisés par ce comportement du ministère. Et donc, c'est là, moi, quand j'essaie de discuter avec les gens, mais pourquoi l'avoir que vous étiez tous d'accord que vous deviez le valider ensemble, mais pourquoi l'avoir fait à l'insu sans avertir l'Union européenne? Ils ont dit, nous, on a trouvé que c'était bon. Si pour eux, c'est pas bon, c'est pas grave, on avance. C'est comme ça que c'est la réponse que j'ai eue en neuf. Donc, pour conclure, il faut reconnaître que la domination européenne sur la gouvernance forestière du Cameroun, c'est bien un fait dont il faut se poser les questions si c'est vrai ou pas. C'est bien avéré, c'est là. Mais que l'esprit de résistance que le Cameroun affiche face dans cette coopération n'est pas dû au fait que le Cameroun ne trouve pas intérêt à appliquer à renforcer la légalité forestière ou alors ne trouve pas intérêt dans cet accord. C'est tout simplement pour lui une façon de pouvoir. Et je dis, quand je dis, mais le Cameroun ne le fait pas de manière en disant que je résiste, en fait, ils le font tout simplement, les acteurs, le font tout simplement parce qu'ils essaient de ne pas perdre le contrôle de leur système de gouvernance. Et du coup, ce que moi je pourrais dire, et c'est qu'avec tout ce que nous avons dit, nous avons vu des bienfaits, même ce matin on parlait des bienfaits de la fédération, il faut qu'elle soit mutuellement bénéfique. Il faudrait plutôt créer des conditions actuellement au Cameroun, dans le cadre de cet accord, des conditions qui permettent une coopération équilibrée du point de vue du pouvoir. On peut bien être un dominant, le refuse pas, l'Union européenne est puissante par rapport au Cameroun, mais une relation entre puissant et faible ou bien fragile, disons plutôt fragile, n'est pas forcément obligé d'être une relation où c'est toujours le dominant qui l'emporte. Ça peut être une relation équilibrée. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Alors, merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations. Donc, pour ouvrir la discussion et essayer de monter un peu en généralité à partir de vos deux études de cas, vos deux éclairages, d'un côté au sein de la sphère scientifique pour Firmin et de l'autre dans la sphère politico-économique, hein, parce que l'aspect économique est en filigrane. Donc celle de la politique forestière au Cameroun. Donc en fait, bon, les partenariats dans les faits ne se poursuivent pas, enfin ne poursuivent pas toujours des buts communs. Et on assiste à des logiques institutionnelles et personnelles parfois opposées, parfois inconciliables. Alors Firmin, donc vous avez une posture réflexive sur votre parcours de recherche. Vous nous donnez à voir des coopérations en cascade. Vous expliquez le cheminement des relations interpersonnelles qui donnent lieu à des coopérations scientifiques, parfois à des amitiés. Et puis ensuite, vous abordez des éléments propres à la réalisation, plutôt aux entraves à la réalisation de la recherche en Afrique, et notamment aux situations précaires que vivent les doctorants africains, avec notamment l'obtention d'un financement d'un an sur les 5 nécessaires à la réalisation d'une thèse en sciences sociales. Donc des difficultés que vous soulevez, qui plus est pour un doctorant chef de famille. Donc vous auriez pu écrire en fait un chapitre du livre de Larissa Kojoué, Tu seras docteur mon enfant, qui en fait décrit le comment, contre vents et marées, on devient docteur en sciences sociales à Yaoundé, à Ouaga, à Dakar et pourquoi pas à Boaké. Donc tous deux, dans vos études de cas, vous donnez à voir des mécanismes d'asymétrie, d'inégalité, dans le cadre de programmes de recherche Nord-Sud, autant que dans le cadre de programmes politiques européens. Sandrine, donc, au regard de la relation de coopération que vous avez décrite et analysée, parce qu'il y a des intérêts divergents, vous nous montrez comment les acteurs camerounais opèrent des choix tactiques, comment certains parviennent à se soustraire plus ou moins habilement des injonctions, et on assiste à des jeux d'acteurs. Vous nous montrez comment ces derniers déploient une gamme de stratégies pour contourner des injonctions. Et donc des injonctions de l'Union européenne, puissante économiquement et politiquement. Effectivement, on est dans un cas de figure où on a 27 États membres, qui plus est européens, face à un seul État africain. Donc vous soulevez, au sens de James Scott, que finalement la passivité apparente devient le socle de la désobéissance. Donc dans d'autres circonstances, vous nous montrez comment l'État camerounais s'est retourné, en fait, il arrive à retourner ses liens de dépendance à son avantage par la stratégie donc, que vous avez présentée à la fin, cette stratégie que vous nommez la défiance déguisée, qui en fait aboutit à des prises de décision indépendamment de l'Union européenne. Et là, vous donnez à voir une résistance ouverte et déclarée, celle de l'État camerounais, qui se distingue finalement des autres formes de résistance plus discrètes et plus à la marge, mais non moins politiques. Donc pour certains acteurs qui savent habilement tirer leur épingle du jeu, qui d'une certaine manière instrumentalisent la contrainte externe, on est complètement dans des stratégies d'extraversion, au sens forgé par Jean-François Bayard. Donc voilà, peut-être vous interrogez là-dessus, pourquoi vous ne mobilisez pas la stratégie, la notion d'extraversion. Donc des stratégies qui permettent à certains des ascensions de carrière. Et donc pour terminer, au regard donc de certaines situations que vous décrivez et que vous analysez, une interrogation se pose et en mettant un peu les pieds dans le plat, hein, quelque part, elle pourrait se formuler ainsi. Donc, dans quelle mesure, finalement, ces termes collaboration, coopération, partenariat, accord de partenariat volontaire, c'est quand même quelque chose d'accoler l'adjectif volontaire à côté du terme partenariat. Qu'est-ce que ça sous-entendrait qu'il y aurait des partenariats non volontaires? Est-ce que ça sous-entend que c'est une manière de se convaincre qu'il n'y a pas de contraintes et qu'il n'y a pas de conditionnalité? Enfin voilà. C'est quoi la signification de ce sens volontaire? Et donc, avec ces termes, collaboration, coopération, partenariat, dans quelle mesure, finalement, ne serait-on pas plus en présence d'euphémismes qui tendent à asseoir et à perpétuer des relations de domination? Je vous remercie. Et alors, vous pouvez répondre tout de suite, ou alors on prend les questions de la salle et vous faites comme vous voulez.
Partenariat. Volonté, coopération, collaboration. Et en fait, effectivement, on est toujours dans cette production de concepts, en fait. Et c'est un peu comme le concept développement de développement de pays en voie de développement de pays à économie intermédiaire de pays émergents. En fait, ce sont des thèmes, mais qui au fond ne changent rien dans la pratique, dans le concret. On est toujours dans cette logique de domination, mais effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est qu'en même temps, il ne faut pas voir aussi que de la domination du Nord, c'est que nos États ont cette capacité de toujours trouver des moyens, en fait, et souvent même, ils obligent en fait le Nord aussi à changer sa façon de faire, mais de façon subtile. Il donne aussi des leçons de gouvernance parce que, par exemple, quand on doit aller évaluer un programme financé par l'Union européenne, par exemple, on vous montre tous les documents nécessaires qui prouvent que le travail a été fait. Mais dans la vie, dans la vraie vie, le travail n'a jamais été fait. Et comme ils savent que l'Union européenne ne va pas aller fouiller dans les assiettes des populations pour savoir si le travail a été effectivement fait. Donc eux aussi, ils jouent le jeu. Et ils vous disent qu'effectivement, on a fait. Voici les preuves qui montrent qu'on a fait. Moi, par exemple, je prends mon exemple, c'est que depuis que je viens en France, on ne m'a jamais demandé de produire un rapport scientifique de ma mission en France. Mais par contre, on me demande toujours de produire des tickets qui prouvent que quand je suis venu en France, j'ai mangé. C'est quand même extraordinaire.
On n'en parle plus.
Merci. Voilà. Bon,
c'est pour
bon, ça se passe pas. Voilà, merci beaucoup.
Évidemment, c'est vraiment une question très intéressante à laquelle il faut vraiment trouver, il faut répondre. En fait, c'est comment je comprends, le fond reste le même. On essaie juste de changer les appellations et tout ça est dû au fait à l'évolution du monde, à certaines dénonciations. Je crois que c'est l'accord de Paris qui, en 2000, qui essaye de changer les thèmes de collaboration entre le Nord et le Sud en essayant de promouvoir des coopérations gagnant-gagnant et que les États du Sud eux-mêmes trouvent par eux-mêmes des instruments ou bien des moyens domestiques pour pouvoir mettre en application les politiques décidées au niveau global. Et justement, du fait de ce genre, de ce type d'accord ou bien de décision globale ou internationale, qu'on arrive à faire ce petit jeu de cache-cache-là, à un moment, ok, d'accord, puisque les pays africains ne veulent plus être en tant qu'on les aide, compte tenu du fait que leurs matières premières sont plus. Est importé par l'Europe et donc c'est l'Afrique qui construit l'Europe et du coup quand on dit certains Africains ne veulent plus entendre dire que non l'Europe vient nous aider, ok d'accord on ne parlera plus d'aide mais on dira maintenant coopération. Non, ce n'est plus de la coopération parce que quand vous parlez de coopération, nous sommes sur des pieds nous ne sommes pas sur le même pied. Non, nous ne sommes pas plutôt sur le même pied d'égalité. Alors, on vit plutôt vers la coopération. Non, on veut la collaboration. Non, la collaboration, ça ne donne plus parce qu'il y a des chocs interculturels et autres. Là, bon, d'accord, on va parler plutôt des accords, de partenariat volontaire parce que ce n'est plus nous qui nous imposons, c'est vous-même. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec le FLECT parce que l'Union européenne a mis en place le FLECT et de son côté, s'est mis à tenir un discours, genre, dorénavant avec ce plan d'action FLEC, le bois produit de manière illégale venant des pays tropicaux n'entrera plus jamais sur notre territoire, sauf si vous nous garantissez vraiment que vous avez appliqué les lois comme il faut et qu'on s'assure nous-mêmes que c'est ce que vous avez fait. Et un pays comme le Cameroun, dans les années 2000, le marché européen, son premier marché, il se dit, ah, si je n'entre pas, voilà, excusez-moi de revenir un peu en arrière, pour compléter son discours, il a dit, voilà, mais si vous voulez toujours continuer à venir avec votre voix, vous avez le choix de signer un accord avec moi pour que tous les deux, je vous aide à appliquer les lois chez vous et vous me garantissez que vous m'amènerez toujours que du bois légal. Et le Cameroun se dit, ah, si je perds ce partenaire économique, comment je fais avec mon secteur économique? Et voilà, il dit, ouais, c'est volontairement que je l'ai fait, mais après, est-ce que vous voyez vraiment du volontarisme là? Il n'avait pas le choix, quoi. C'est plus tard que le Cameroun s'est rendu compte que, en fait, c'était... pas de la duperie, mais ils n'avaient pas eu vraiment toute l'information parce qu'aujourd'hui, le marché européen n'est pas le premier marché vers lequel l'Afrique importe son bois. L'Asie est là aujourd'hui. Si à l'époque, le Cameroun ou bien les pays comme les pays africains qui s'engageaient à le FLET avaient eu cette information, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu aller signer. Tout ça, vous voyez pareil. Il n'y a que, je crois que c'est le mois passé que la Côte d'Ivoire quand même a fini par signer son accord de FLET, mais avec des conditions que vous... Il a bien négocié sa place, quoi.
Question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, donc c'est une question pour vous, Sandrine. Merci de votre présentation. Je me demandais, puisque vous avez évoqué James Scott, dans la description qu'il fait des luttes contre l'avancée de l'État, il explique le rôle de personnes, je ne sais pas comment lui le mentionne, mais des marginaux séquents, en fait, des personnes qui ont été dans deux systèmes d'action différents. Donc je pense peut-être aux Camerounais qui ont été formés en Europe ou dans d'autres univers, et qui pourraient avoir une place fondamentale dans les luttes qui sont pratiquées et pensées dans les terrains, sur votre terrain. Parmi les entretiens que vous avez faits et les personnes que vous avez pu observer, quelle est la place justement de ces gens qui ont ces cultures issues de deux univers, justement, pour revenir sur ces coopérations interpays?
Je n'ai pas eu l'occasion de le présenter, mais comme je l'ai quand même évoqué, et quand vous lisez le résumé que j'ai soumis, l'APV FLET a modifié le paysage du secteur forestier camerounais en amenant d'autres acteurs. Des acteurs qui, avant, on n'aurait même jamais imaginé qu'ils interviennent, que l'État les écoute, parce qu'avant, c'était juste l'État qui traitait avec le secteur forestier, le secteur privé. Mais avec la PV FLET, on a eu de nouveaux acteurs tels que le secteur privé, la société civile, qui est en très bonne place, et il faut le dire, c'est le meilleur partenaire de l'Union européenne actuellement au Cameroun. Et c'est justement, déjà dans cette société, il y a eu cette société civile-là, et il y a eu aussi un autre type d'acteurs qui, selon le thème je crois que c'est RAS, qui les appelle les communautés épistémiques, c'est-à-dire les chercheurs comme nous, qui aujourd'hui aussi, quand on parle de FLET au Cameroun ou ailleurs, ils ont leur mot à dire. Et justement, quand j'ai eu à discuter, que ce soit avec des chercheurs camerounais ou européens qui travaillent sur le FLET, la même chose dans le secteur de la société civile, il y a des jeunes camerounais qui ont été fait des masters en coopération au développement, qui rentrent au Cameroun travailler dans les ONG, parfois créent même leurs propres... Le discours est partagé avec ces deux types d'acteurs. Il y en a certains qui sont convaincus que ça, c'est le néocolonialisme. Il faut vraiment trouver les moyens pour ne plus laisser passer cette fois-ci. Et il y a d'autres qui, non, c'est parce que on s'est habitué à être des victimes, à avoir du mal partout. Et d'ailleurs, nous sommes tous les Camerounais, le gouvernement camerounais, ce sont des escrocs, ils passent le temps à prendre l'argent de l'Union européenne pour soi-disant mettre en œuvre des activités qui pour la, la, l'avancée de l'accord. En fait, c'est ce que je veux juste relever ici, que dans ce type d'acteurs-là, le discours est... Ils sont partagés. Il y a ceux qui trouvent vraiment qu'il y a de la domination et qu'il faut vraiment trouver des stratégies pour résister ou à l'autre. Il y en a certains qui ont pensé qu'il faut même dénoncer l'accord et sortir de là. Et d'autres qui... je pense particulièrement à une ONG qui vraiment très, soutient vraiment la délégation de l'Union européenne dans tout ce qu'elle fait. Elle essaie de faire pour faire fonctionner l'accord au Cameroun.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
C'est toujours à moi.
Merci bien. Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est juste un petit commentaire. Par rapport à la coopération, notamment entre les pays développés et les pays, soit dit, en développement, la difficulté souvent, c'est que les pays développés, soit c'est par les on-dit, ou bien c'est par l'opposition au pouvoir de nos pays sous-développés, qu'ils prennent des décisions sans forcément chercher à les contrôler sur le terrain. Ils ne cherchent pas à rentrer dans nos propres schémas, nous connaître, savoir comment nous gouvernons nos espaces pour pouvoir voir s'il y a nécessité d'apporter quelques amendements afin d'améliorer. Mais ils se mettent à l'extérieur, ils envoient ça comme si vous n'existez pas et qu'on vous demande d'appliquer. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un choc de culture qui fait que ça ne marche pas toujours. Parfois même, les gens vont en mettant l'argent en bas pour dire que faites ça comme ça. Nous, on a vu avec, en Côte d'Ivoire avec l'enseignement télévisuel. La France avait initié l'enseignement télévisuel, ça avait échoué, mais il fallait envoyer les appareils ailleurs. On nous a fait croire que c'était une bonne chose, mais ça a échoué. Parce qu'on ne cherche pas toujours à comprendre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, moi, je suis fils de paysan et j'en suis fier. J'ai grandi dans ce milieu-là où, dans les plantations de cacaoyers, nous, en tant qu'enfants, on avait nos apports. C'est-à-dire que les parents cueillent les cabosses. Nous, on les regroupe pour qu'après, on puisse les casser pour avoir la ferme. On participe à un certain nombre de choses. Et puis, un bon jour, apparaît qu'en Côte d'Ivoire, on produit le cacao avec des enfants esclaves. Et aujourd'hui, les pays occidentaux assujettissent l'achat du cacao à partir de la production sans enfants esclaves. Mais on n'a jamais cherché à savoir quel est l'enfant esclave. Hein? Schauer avait fait un truc où, moi, fils de paysan, je ne sais même pas dans quelle partie de la Côte d'Ivoire cela a pu se faire, où vous avez des gens enchaînés, hein, et qui font du défrichement avec des fouets sur le dos, mais concrètement, c'est dans quelle partie de la Côte d'Ivoire que cela a pu se faire. Vous voyez? Mais du côté de l'Occident, on pense que c'est des choses qui sont réelles, ils ne vont même pas sur le terrain pour vérifier, et puis après, ça va régir la coopération. Moi, je pense que, de façon normale, autant que moi, quand je viens en France, j'observe, j'essaie de connaître la société française pour voir comment je peux intervenir. De la même façon, quand les Occidentaux vont dans nos pays, quand ils veulent vraiment nous aider, il faut qu'ils essaient de rentrer en nous, de voir. Si vous regardez bien les productions de l'IRD, l'IRD, pendant longtemps en Côte d'Ivoire, c'était leur somme, mais ils ont fait du bon travail. Connaître nos sols, nos climats, faire des propositions pour que l'agriculture puisse aller là. Ça sert à la coopération. Mais on ne peut pas faire de la coopération à vol d'oiseau, tant que vous êtes ici, et puis vous pensez que vous connaissez mieux que ce que les autres font de l'autre côté, et puis parce que vous avez de l'argent, vous transférez l'argent et vous leur demandez de faire comme ça. Vous voyez? Moi, je pense que la coopération, c'est un échange. C'est un échange. Je vous remercie.
De dire quelque chose à la suite.
Bien sûr.
Ok, merci. En effet, c'est un gros problème que professeur, c'est comme ça que j'ai entendu parler de vous hier, professeur, soulève. Il soulève vraiment un problème très, je dirais même essentiel de la coopération nord-sud. Et ce problème ce manque plutôt a été relevé lorsque, après, je crois que c'était 5 ans après, que le Cameroun ait signé la paix des flex. Il y a eu une étude de bilan des 5 premières années, en 2015. Une étude de bilan de la paix des flex. Et justement, l'étude a montré que l'une des choses qui fait en sorte que la mise en œuvre de l'accord bloque, c'est que lorsque on a pensé pensé adhérer au FLECT, il n'y a pas eu une étude du contexte sociopolitique et culturel du Cameroun. Il n'y a pas. Est-ce qu'on s'est posé la question que déjà pourquoi est-ce que les Camerounais n'appliquent pas les lois forestières? Qu'est-ce qu'ils font en sorte qu'on ne respecte pas les lois forestières au Cameroun? Et maintenant, si on a mis un nouvel instrument de l'extérieur, est-ce que vraiment les Camerounais sont prêts à y adhérer? Surtout que depuis les années 90, on a vu toutes les réformes qui se sont faites au Cameroun venant de l'extérieur n'ont rien donné. Alain Carcentier a écrit là-dessus. Ça n'a rien donné. Maintenant, pourquoi aller reformer le même format? S'il y avait eu cette étude-là, on aurait vu que en matière de réforme impulsée de l'intérieur, il n'y a jamais eu de résultats positifs. Les résultats visés n'ont jamais été atteints. Et on aurait vu que culturellement, les Camerounais sont trop fiers d'eux, qu'ils n'ont pas senti qu'il y a quelqu'un qui leur donne des os. Sinon, ils commencent à développer des stratégies de ruse pour faire passer leur préférence. L'accord de Paris a bien est bien loin dans ce point-là qu'il a pensé que oui, il fallait que laisser aux États de penser leur mécanisme propre interne, mais les premiers à ne même pas laisser les Africains à penser ces mécanismes-là, c'est toujours l'Europe. Tous les projets qui ont été financés pour le FLECT ont été proposés, c'est-à-dire les propositions viennent de la FAO. À partir de telle période, ce programme UEFAO FLECT pourra mettre à disposition tel nombre de millions d'euros pour financer des projets qui vont dans tel sens. Et si vous vous proposez un autre projet, il y a des ONG qui ont été vraiment, qui ont osé en leur disant que non. Ce que vous nous demandez de faire, ce n'est pas ce dont on a besoin sur le terrain. Maintenant, on veut plutôt ceci. Mais le projet n'est pas retenu, il est rejeté.
Merci beaucoup, Sandrine. On a une dernière question de Lucie pour Firmin.
Merci. En fait, moi, c'était une question un petit peu comparative. Ça me permet aussi, vos présentations, de faire ce genre de travail. Étant donné ton expérience du coup de l'espace scientifique en Côte d'Ivoire et de l'espace scientifique français, est-ce que tu penses que le fonctionnement de l'espace scientifique en Côte d'Ivoire est davantage coopératif ou compétitif par rapport à ce qui se passe en France? Et ça rejoint un petit peu les débats qu'on avait sur la table ronde et la LPR d'hier. Voilà, puisque tu soulignais aussi dans ta présentation des fragilités dans les partenariats scientifiques nord-sud, mais aussi sud-sud. Donc c'était simplement pour avoir un peu ton opinion là-dessus.
D'accord. Merci beaucoup. Comme je l'ai souligné à la fin, c'est qu'il faut avoir une approche symétrique. L'espace scientifique en Côte d'Ivoire n'est pas plus satisfaisant que l'espace scientifique en France. Il y a des problèmes dans les deux côtés. Par exemple, comme je l'ai souligné, chez nous, ce qui pose peut-être le problème, c'est qu'on finance moins en fait la recherche. Ici aussi, par rapport au niveau de vie, par rapport aux ambitions scientifiques, les Français estiment aussi aujourd'hui qu'on finance moins la recherche. Voilà. Donc il y a toujours ça, donc comme tu l'as dit, c'est qu'on partage et ça rejoint aussi au débat de cet après-midi, c'est qu'on partage tous les mêmes problèmes, peut-être à des degrés variés. Voilà, donc l'espace scientifique en Côte d'Ivoire n'est pas plus glorisant que l'espace scientifique français. Seulement que la différence, c'est que c'est toujours, c'est que une bonne partie du financement vient du Nord, et ça nous donne en fait le sentiment que ici, ça va même, avec le temps que j'ai passé ici, je me rends compte que c'est pas mieux que là-bas. Mais le problème, c'est que moi, en tant qu'Ivoirien, quand je vais là-bas et que je dis que ce qui se passe ici n'est pas aussi plus meilleur que ce qu'on vit là-bas, on estime que moi, je suis un peu franciciste ou bien, voilà. Voilà. Non, c'est tout. Maintenant, j'aimerais profiter un peu pour réagir sur par rapport à l'intervention de donc ça va toujours dans le même sens. C'est que Sandrine disait qu'il n'y a pas eu d'études pour études environnementales ou études de dévaluation pour savoir en fait dans quel ordre si savoir la faisabilité ou l'applicabilité en fait aussi de la faisabilité du projet. La question, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est que qui allait financer cette étude-là? C'est ça. C'est qu'on allait encore demander l'Union, l'argent à l'Union européenne de venir financer encore cette étude. Et si c'est l'Union européenne qui devait venir financer cette étude, c'est elle encore qui allait définir les
objectifs
de recherche et les thèmes de finance. Donc, à la fin, même si on faisait une étude, en plus, quand il faut une étude, moi je vois, je sais, les résultats, vous devez aller le présenter et ils vont vous dire après que telle partie, nous, on ne veut pas. Voilà. Donc, tant que nous, c'est ce que j'ai dit, c'est que tant que nous, on n'y prend pas la responsabilité aussi à un moment donné, nous-mêmes, de chercher de l'argent pour financer nous-mêmes nos recherches, on va toujours subir. Et c'est ça. Et après, dans le débat, je vais aborder il y a une dimension aussi que nous aussi en Côte d'Ivoire qui apparaît exactement comme la question du bois et aussi du cacao en Côte d'Ivoire tout à l'heure dans le débat. Donc pour ne pas faire le débat avant le débat, donc je vous laisse la parole.